Et ce matin, Lise, vous allez parler des menaces de Hassan Nasrallah en compagnie de notre invité que nous connaissons bien sur les ondes de Radio Judaïka. Je vous laisse vous entretenir.
Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Olivier Rafovitch, colonel de réserve de Tsahal. Bonjour Olivier.
Bonjour Lise.
Donc Nasrallah, des menaces, ça n'est pas nouveau, mais tout de même. Donc hier, pour une fois, dans un discours qu'il a diffusé sur des écrans géants à Beyrouth, il a parlé de la réforme du système judiciaire en Israël et dit que le gouvernement qu'il qualifie d'insensé pousse à deux conflits majeurs, un conflit interne en Israël et un conflit avec les Palestiniens qui s'étendrait selon lui dans toute la région. Alors maintenant, Nasrallah se mêle de la politique intérieure israélienne, Olivier Rafovitch ?
Alors, ce n'est pas nouveau que Nasrallah, qui connaît bien Israël, puisque c'est quand même un ennemi, je dirais presque ancien, hein, que nous avons en face de nous, il connaît parfaitement la société israélienne, les conjonctures politiques internes, et là, il se mêle de la vie israélienne en utilisant donc le discours du président Herzog, pour essayer en fait de jeter une angoisse, une névrose sur la société israélienne en utilisant donc la crise politique interne. Et c'est en général de sa part une manière de vouloir influencer, je dirais, l'état d'esprit général en Israël. Mais en dehors de ce qu'il a dit, il a également continué à menacer très sérieusement les États-Unis et également Israël, en notant qu'Israël, dans le passé, avait été un royaume qui n'a pas duré plus de 80 ans, donc il voulait le comparer à ce qui s'était passé auparavant. Enfin, tout cela réuni, en fait, nous sommes face à une guerre psychologique classique d'un homme qui utilise les médias dans la guerre contre Israël.
Oui, d'ailleurs, il a parlé aussi, et ça, c'est vraiment complètement de la propagande, qu'en Israël, les gens s'organisaient pour quitter le pays et retourner de là dont ils étaient originaires, notamment aux États-Unis.
Là, on se demande même si Nasrallah n'est pas devenu lui-même sioniste, parce qu'il est angoissé par la Yerida et non pas par l'Aliya. Alors, on va peut-être lui proposer de se convertir au judaïsme, d'arrêter d'être un terroriste et puis peut-être de changer d'identité, puisqu'il est tellement inquiet pour nous. C'est presque. Enfin, si ce n'était pas grave, je dirais, c'est presque comique. Mais tout cela réunit encore une fois, bon, c'est de la propagande de basse zone, d'un homme qui, faut pas l'oublier, qui se cache depuis 2006 dans un bunker dans le sud de Beyrouth par peur d'être inquiété par des menaces qui pourraient peut-être venir d'Israël. Et tout cela réuni fait que, bon, on a encore une fois ici une utilisation, une manipulation médiatique sur la chaîne El Manar du Hezbollah contre Israël, contre les USA. Et n'oublions pas que le Liban subit une crise extrêmement grave, je dirais même dramatique, et que le Hezbollah est critiqué comme étant un des acteurs qui a mis le Liban dans cette situation-là. Donc il a besoin de temps en temps, d'extérioriser le problème en disant « c'est pas moi, c'est l'autre qui est responsable », et accuser Israël, c'est toujours la bonne chose qu'il sait faire.
Oui. Alors, vous le disiez, Olivier, il a menacé Washington de manière très claire. Tout chaos au Liban mènera, selon lui, un chaos dans toute la région. Il peut se permettre, Nasrallah, de menacer les États-Unis ?
Il les a menacés hier de manière très sérieuse. D'ailleurs, il a même laissé entendre que si les Américains voulaient s'ingérer dans l'affaire libanaise, ils paieraient un prix très cher. Il a laissé planer comme ça une espèce de brouillard sur la réaction qui serait celle du Hezbollah ou de l'Iran, d'ailleurs, on ne sait pas, contre les USA. Il faut quand même se méfier du Hezbollah, qui reste une organisation terroriste extrêmement puissante, avec des éléments militaires, sécuritaires, des armes surtout, extrêmement importants. Et tout ça réuni, oui, il faut quand même faire attention à ce qu'il dit. D'ailleurs, je suis convaincu que les Américains ont écouté ce discours de manière très, très professionnelle et qui vont également en utiliser les éléments pour savoir un petit peu de quoi il s'agit au-delà des mots.
Alors, le Liban, donc, est sans président depuis le 31 octobre dernier. Et c'est le nom d'un des chefs de l'armée, Joseph Aoun, qui circule en ce moment dans les milieux diplomatiques comme sérieux candidat à la présidence. Par contre, le Hezbollah, de son côté, soutient toujours Sliman Frangier. Est-ce que ça va avancer ces prochains temps au Liban?
C'est difficile au Liban de nommer un président ou de nommer quelqu'un d'important sans qu'il y ait le soutien du Hezbollah, d'une manière ou d'une autre, puisque le Hezbollah, c'est l'Iran, et l'Iran voit le Hezbollah, le Liban, pardon, pratiquement comme une colonie, hein, une colonie iranienne au bord de la Méditerranée, au nord d'Israël. Donc pour l'instant, ça reste toujours une situation bloquée, et il faut attendre pour voir, mais en tout cas, le Hezbollah continue à avoir les clés du pouvoir au Liban, et d'ailleurs le Hezbollah, c'est l'Iran, ce qui inquiète toujours évidemment Israël et les alliés ici, qui sont les Américains, les Français, qui se rendent bien compte qu'il y a de plus en plus une mainmise de l'Iran sur le Liban. Les Libanais ne sont plus du tout indépendants, et ce que veut le Hezbollah n'est pas du tout l'intérêt du Liban, mais l'intérêt de l'Iran. Et donc le choix du prochain président va certainement dépendre des ayatollahs et des mollahs de Téhéran et non pas du peuple libanais.
Alors, comme toujours, Nasrallah a fait référence au gisement de Karish, puisque en début de semaine, donc Energean, qui exploite le champ de Karish, a exporté pour la première fois des liquides d'hydrocarbures. Est-ce que, en fait, tout ce discours de Nasrallah hier, Olivier, c'était uniquement parce qu'il attend les dividendes de ces gisements offshore?
Non, je ne crois pas qu'on est là relié de nouveau au gisement de gaz offshore Karish et du côté libanais qui n'ont pas encore commencé à être même exploités du tout. Mais on est dans une situation, le Hezbollah et Nasrallah en particulier, a besoin encore une fois de parler de l'extérieur pour faire oublier, entre guillemets, aux Libanais les problèmes intérieurs. Et encore une fois, le Hezbollah est au centre d'une critique acerbe de la part des Libanais qui se rendent bien compte que le Hezbollah, c'est l'Iran, et l'Iran, c'est pas le Liban, mais les Libanais payent le prix de l'ingérence iranienne via le Hezbollah, et le Hezbollah veut jouer à chaque fois le rôle de l'État à la place de l'État, du gouvernement à la place du gouvernement libanais. Et donc, il parle d'Israël, des Américains, pour faire oublier aux Libanais les problèmes de pénurie d'essence, les problèmes de salaire impayé, les problèmes de crise économique dramatique, de la chute de la lira libanaise, dont tout cela réuni encore une fois est une comment dire, une tentative du Hezbollah pour jouer la carte extérieure et pour se faire passer pour le défenseur du Liban face à des menaces qui sont d'ailleurs d'abord et avant tout des menaces internes et intérieures. Quel rapport entre la crise intérieure, la corruption sans fin, le rôle d'un Hezbollah qui mange comme un cancer le Liban de l'intérieur? Et entre guillemets, les Américains, les Israéliens. Mais ça reste le discours depuis des années et des années. Et je rappelle que Nasrallah est aux manettes du Hezbollah depuis 1992 ou 14, si je ne m'abuse.
Alors, ma dernière question à Olivier Rafovitch. Saïf Al-Adel, membre d'Al-Qaïda d'origine égyptienne, serait devenu le chef de l'organisation terroriste. Et justement, il se planque en Iran. Est-ce que c'est une preuve des ambitions d'Al-Qaïda en termes de mouvement mondial terroriste face à l'État islamique?
Vous avez tout à fait raison de le signaler. D'abord, on l'appelle l'émir Saïf Al-Adel. Bon, c'est pas, il n'est pas émir, hein, il se fait appeler comme ça. Alors, il représente une organisation terroriste sunnite dans un pays à majorité chiite. Donc, tout cela réuni, en fait, nous donne à penser que les Iraniens, et en tout cas les services de renseignement iraniens, ont mis la main sur Al-Qaïda pour, comme avec le Hezbollah, pour utiliser le long bras terroriste de Al-Qaïda pour frapper dans des pays déclarés comme ennemis par la République islamique d'Iran. Et il faut s'attendre ici à des choses nouvelles. Alors, encore une fois, rien de nouveau par rapport à Al-Qaïda, mais ce qui est nouveau ici, c'est le lien de plus en plus étroit entre l'Iran et Al-Qaïda. Alors, je rappelle aux auditeurs, et vous êtes à Bruxelles, que l'Iran aujourd'hui, qui avait été vu depuis longtemps par Israël comme l'ennemi numéro un, mais pas par les Européens, commence à montrer son vrai visage. Hein. C'est elle qui fournit des drones suicides et qui fournit des armes aux Russes contre les Ukrainiens, donc en territoire européen. C'est elle qui soutient le Hezbollah, le djihad islamique. C'est elle maintenant qui abrite le patron maléfique de l'Al-Qaïda, tristement célèbre à Téhéran. Donc l'Iran ne se cache plus pour être, je dirais, le port d'attache de tout ce qui est terrorisme islamique, qu'il soit d'ailleurs chiite ou sunnite. Et ceci, en fait, agrandit gravement l'influence macabre, maléfique de la République islamique d'Iran, qui elle aussi se trouve dans une situation où elle est, entre guillemets, avec les méchants, contre les gentils. Et elle ne se cache plus. Maintenant, est-ce que les Européens, est-ce que l'Union européenne, est-ce que l'ONU vont faire des sanctions contre l'Iran de manière beaucoup plus sévère? C'est la question qu'on peut se poser et qu'on pourrait se poser lorsqu'on est à Bruxelles et qu'on a un Parlement européen qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Israël, beaucoup, beaucoup de la Russie, mais pas beaucoup, beaucoup de l'Iran. Et c'est peut-être le moment qui est venu pour enfin s'occuper de ce régime corrompu extrêmement dangereux qui pose un problème sécuritaire à l'Europe, aux Israéliens, mais au-delà de tout cela, au monde.
Eh bien, j'espère que vous serez entendu, Olivier Rafovitch. Merci beaucoup pour toutes ces analyses ce matin. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de Tsahal. À très bientôt et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, merci beaucoup. À très bientôt.